Eh bien oui, vous avez reconnu, c'est Robert qui va vous parler du Festival de Radio France et de Montpellier-Occitanie. C'est la dernière semaine complète, hein. Vous savez que la semaine prochaine, il ne restera que deux jours, lundi, mardi. Et bien aujourd'hui, on va vous parler d'un tas de choses absolument passionnantes. Voilà, et vous êtes bon sur FM+, le 91 de Montpellier, ou Alliance Plus 103.1. Et nous avons notre charmant technicien qui se gratte le menton ce matin, mais tout va bien apparemment. Alors aujourd'hui, eh bien avant de présenter les quelques concerts, alors aujourd'hui il y en a pas mal, quelques concerts de ce vendredi 22 juillet, nous allons revenir un peu sur celui de hier. Hier c'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'est dirigé par Pablo González. Nous avons un oiseau de feu absolument excellent, c'était extraordinaire. Et surtout avant nous avons eu, surtout aussi avant, Épiphanie de Monsieur Caplet. Et André Caplet, compositeur français. Et pour cette épiphanie, qui en fait est un concerto pour violoncelle, eh bien, il y avait un magnifique violoncelliste français qui s'appelle Marc Copé. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc, eh bien, nous allons écouter Marc Copé. Nous écouterons ensuite, comme petit intermède musical au milieu de cette interview, justement, cette épiphanie qu'il avait enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé par Pascal Roffet, un disque Éon. Et nous écouterons le deuxième mouvement, qui est une espèce de solo de violoncelle accompagné de petits bruits dans l'orchestre. C'est absolument magnifique. Et pour terminer, nous écouterons du Dubois, et oui, un compositeur que justement Marc Copé a enregistré. Et nous écouterons le deuxième mouvement de cette magnifique œuvre qui est une magnifique œuvre, c'est une espèce de concerto pour violoncelle aussi. Et là, monsieur Marc Copé est accompagné par l'orchestre de Poitou-Charentes, dirigé par monsieur Heiser. Donc voici Marc Copé, tel qu'il nous a raconté tout un tas de belles choses hier dans la matinée.
Alors Marc Copé, bonjour, on est content de vous retrouver au Festival Radio France. Alors dites-moi quelque chose de simple, vous êtes déjà venu au Festival ou à Montpellier globalement?
Je suis même venu il y a très longtemps pour y faire quasiment mes débuts. C'était un de mes premiers concerts importants, un de mes premiers concerts radiodiffusés. Dans le cadre de la Fondation Berakaza.
Ah, d'accord, d'accord.
Après des concours internationaux, souvent on invitait là des
musiciens. Absolument, c'est la façon de faire.
Exactement. Et donc j'ai un très bon souvenir de ce récital donné au Quorum. Et puis je suis revenu plus tard avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, qui est ma ville natale, pour donner un concert de Saint-Saëns. Je suis revenu à Montpellier par ailleurs pour des concerts avec l'orchestre ou des concerts de musique de chambre. Mais pour le festival, ça faisait longtemps et je suis très heureux de retrouver ce festival qui a une programmation très riche. Et
elle est très équilibrée cette année, je trouve.
Qui me tient beaucoup à cœur.
On en parlera. Alors, j'ai cru voir que, oui, vous avez gagné plusieurs cours internationaux. Alors, j'aime bien poser cette question-là aux instrumentistes. Qu'est-ce que ça vous a franchement apporté, dans le concours Bach de Leipzig en particulier?
Les concours, vous savez, je pense qu'il faut peut-être les faire comme un passage obligé, ou en tout cas, pour moi, ça en a été un, mais en même temps, j'ai eu la chance d'en gagner assez tôt et d'arrêter assez tôt d'en faire, parce que je pense que les concours, c'est aussi un risque.
Bien sûr.
La musique et les concours, ça n'est pas nécessairement compatible. Je crois que c'est Maurice Ravel qui disait que les concours, c'était pour les chevaux. Et je suis assez d'accord, au fond. Maintenant, c'est aussi un moment quand on est jeune musicien où on forge un répertoire, où on est appelé à essayer de se dépasser et aller vraiment au bout de soi-même pour donner le meilleur. Si c'est ça, pourquoi pas? Mais si c'est la compétition avec les collègues, certainement pas. Je ne crois pas tellement à ça. Dans le cas du concours Bach, c'était intéressant parce que c'était un programme vraiment de musique. C'était autour de Bach, bien sûr, mais aussi autour de Leipzig, de Schumann, de Beethoven et de beaucoup de musique liée à l'histoire glorieuse de cette ville. Donc c'était un programme inspirant. Mais voilà, c'est une étape, mais je pense qu'il faut pas en faire plus que ça.
D'accord. Et c'est ce que vous dites à vos élèves du conservatoire à Paris, à peu près?
Exactement. Surtout, je pense que c'est vraiment en essayant d'être un musicien complet, en essayant de s'épanouir dans le métier de musicien que éventuellement on peut parvenir à gagner un concours, mais pas en étant dans une logique de compétition sportive. Ça, je n'y crois pas du tout. Et En plus, vous savez, beaucoup de gens qui gagnent des concours ne sont pas nécessairement ceux que l'on retrouve après.
C'est souvent le cas, oui.
Sur la durée, avec mes étudiants, j'essaie bien sûr de parler avant tout de l'idée qu'ils font du métier musicien, et c'est de les aider à réaliser leur ambition.
D'accord.
Mais l'essentiel étant bien sûr surtout d'avoir du travail, et le travail c'est souvent l'enseignement et des postes dans des orchestres.
D'accord. Alors si on regarde bien votre répertoire, il est absolument immense, et surtout, alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est que vous êtes intéressé à Dubois. Alors ça, c'est quand même sacré. On a eu il y a quelque temps du Dubois, on en avait eu un piano, on en avait eu... Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que Dubois, il était dénigré pendant des années, hein, c'était bon, un vilain professeur du conservatoire, et puis j'ai l'impression que... En gros, c'est ça, hein, et qui était un peu dur. Et puis j'ai l'impression qu'il est en train un peu de ressortir du trou, ou de l'inconnu.
Il y a effectivement tout un travail qui a été fait par la Fondation Bruzane, qui est basée à Venise, qui est un travail très intéressant de redécouverte d'un répertoire français du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Mmh. Alors, bien sûr, on ne découvre pas des Claude Debussy ou des Gabriel Fauré tous les jours. Hein.
Oui,
mais en même temps, il y a... dans cette époque-là, un foisonnement dans la musique française et beaucoup d'œuvres qui ont été parfois injustement négligées et qu'il est intéressant de redonner, bien sûr. Et c'est le cas de certaines œuvres de Dubois. Il y a eu cet enregistrement que nous avons fait avec Jean-François Esser,
oui.
Où nous avons joué une œuvre pour violoncelle, orchestre, violoncelle, piano et orchestre, et puis un Fantasy Stux, ça s'appelle. En fait, c'est un court concerto pour violoncelle et orchestre qui est très réussi.
D'accord. Donc, c'est moi, je trouve. Et alors, on va continuer du côté musique française. Donc, vous nous donnez du Caplet. Alors, moi, je suis à vous d'être un amoureux de Caplet. Je veux dire, il y a des œuvres. Alors, dommage qu'il se soit, j'ose presque dire, écrasé devant Debussy, qui était un grand compositeur. Le problème n'est pas là. Mais je veux dire, on a l'impression qu'il a été complètement écrasé par Debussy et qu'il s'est laissé faire, alors que le masque de la mort rouge, ou ce que vous avez donné, ce sont des œuvres absolument extraordinaires.
Là, on n'est pas dans la redécouverte de belles œuvres un peu oubliées. On est vraiment dans la célébration de chefs-d'œuvre.
Oui.
Je crois vraiment que la musique de Caplet... Et de cet ordre-là, vous citez à juste titre le Masque de la mort rouge, c'est une œuvre d'une inventivité, d'une poésie, d'une force absolument incroyable, et d'une originalité aussi, parce qu'effectivement, il y a l'ombre de Debussy, ils étaient proches, il a fini le martyr de Saint-Sébastien, l'opéra inachevé de Debussy, enfin, il y a bien sûr ce rôle-là, mais ça ne devrait pas pour autant masquer son univers propre, qui est vraiment singulier, qui n'a pas que à faire avec Debussy. Il y a bien sûr ce goût pour l'Orient, qui est célébré là dans le cadre de ce concert officiel de Montpellier, puisque le thème est l'orientalisme, avec cette épiphanie qui est en fait une œuvre pour violoncelle et orchestre, qui est une sorte de concerto en trois mouvements avec une cadence notamment très originale, inspirée d'une légende éthiopienne, et avec une orchestration très foisonnante. C'est une œuvre qui fait 20-25 minutes, c'est pas très longue, mais c'est vraiment intense, et il y a à la fois beaucoup de virtuosité, à la fois un grand lyrisme, et beaucoup de couleurs. C'est une œuvre, je crois, qui est vraiment caractérisée par ce foisonnement de couleurs.
C'est sûr que c'est un coloriste, il n'y a qu'à écouter les orchestrations qu'il a fait de Debussy ou d'autres, c'est toujours très... C'est plus qu'une orchestration, quoi. C'est comme Ravel quand il prend le tableau d'exposition, quoi. Il se passe autre chose, on est ailleurs.
Oui, il y a une vraie invention, et il y a vraiment le fait que les instruments, bien sûr, sont utilisés pour ce qu'ils sont et ce qu'on attend d'eux, et puis en même temps, à cette époque-là, pour ça justement, il partage l'héritage de Maurice Ravel, ce goût pour l'utilisation des instruments dans des sonorités qu'on n'attend pas d'eux. On fait sonner du violoncelle pas du tout comme un violoncelle. Et ça c'est quelque chose qui est bien sûr très exaltant pour un interprète, parce qu'avec son instrument, on cherche beaucoup de sonorités étranges et passionnantes.
Qu'est-ce que vous avez comme à votre répertoire comme autres compositeurs disons français qui ont écrit des œuvres tout à fait à marge, je dirais, de pour le violoncelle. Qu'est-ce que vous avez comme autre compositeur à votre répertoire?
En marge, je ne sais pas, mais je crois qu'il est. On peut bien sûr citer la musique d'Henri Dutilleux parce que. Oui. Notamment ce très beau concerto qui s'appelle Tout un monde lointain, inspiré par les Fleurs du Mal de Baudelaire.
Oui,
et j'en parle parce que justement, quand j'ai enregistré ce concerto de Dutilleux, j'ai demandé à Henri Dutilleux ce qu'il souhaitait que l'on associe à son concerto sur l'enregistrement.
Et Caplet.
Il a pris quelques jours pour pour y réfléchir et il m'a dit mais justement l'Épiphanie de Caplet. C'est une œuvre qu'il aimait beaucoup, qu'il avait joué au piano. Il avait accompagné Paul Tortelier au piano. À l'époque, ça se jouait beaucoup dans des récitals. On n'avait pas toujours l'orchestre. Et les violoncistes de cette génération-là connaissaient et aimaient beaucoup cette œuvre. Après, elle est un petit peu plus tombée dans l'oubli. Et Henri Dutilleux a été, je crois, marqué par cette musique, et notamment par l'écriture de violoncelle de Caplet. Alors, à la fois, bien sûr, lui a développé beaucoup d'autres choses.
Bien sûr.
Son concerto a été créé 50 ans plus tard et voilà par Rostropovitch. Mais on se demande toujours un peu quelles sont les filiations et ce n'est pas toujours facile à trouver. Il y a aussi une originalité profonde d'un Isidore Duthieux. Mais s'il y avait une filiation dans l'écriture pour le violoncelle, elle serait justement peut-être entre Caplet et Duthieux.
Je ne sais pas d'ailleurs si Rostro était un fanat de ce concerto. Il a été créé par lui, il a enregistré, mais je ne sais pas s'il était fanat. Je
pense qu'il... Ah si, il l'aimait beaucoup. Ah oui.
Vous avez dit qu'il préférait celui de Lutoslavski, qu'il a créé à peu près à la même époque.
Ah, je ne sais pas. Non, je crois vraiment qu'il aimait beaucoup cette œuvre. Il l'a joué. Alors, peut-être qu'il ne l'a pas joué autant qu'on aurait pu imaginer, simplement parce que il a toujours continué à donner des créations et à essayer d'étendre le répertoire et à motiver des compositeurs à écrire pour son instrument. Mais, non, je crois qu'il avait vraiment été frappé par l'originalité, la poésie, la beauté de cette œuvre. Il est fasciné, comme nous le sommes tous, par cette musique. D'ailleurs, elle a été bissée lors de la création.
Oui, je me rappelle assez, très bien l'avoir écoutée. Oui.
Assez rare.
Oui, c'est rare. Et alors moi, un autre compositeur que vous avez enregistré, c'est Arnaud Dornani. C'est un compositeur qu'on oublie un peu de temps en temps, sauf c'est peut-être une variation là, sur Mozart. Là. Mais bon, c'est quand même un grand bonhomme, hein, ce compositeur, Arnaud Dornani. Vous avez enregistré un trio à cordes, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein.
Oui, et la sonate pour violoncelle et piano, voilà. Qui est une œuvre de jeunesse. Et l'essentiel de sa musique est de jeunesse, puisqu'il a arrêté de composer relativement tôt. C'est un enfant prodige qui fait une synthèse intéressante entre... Bon, avant tout, la musique allemande ou d'Europe centrale à la fin du 19e siècle, et notamment Brahms, il est très marqué par la musique de Brahms, mais aussi Richard Strauss un petit peu, dans une moindre mesure, et pourquoi pas un peu la musique française, parce que les Hongrois étaient toujours intéressés par la musique française, pas seulement marqués par la musique germanique. Et c'est un univers très, très riche que celui de Dornani, mais effectivement un petit peu oublié.
D'accord. Alors, pour conclure, comment arrivez-vous à alterner les enregistrements, disons la musique de chambre, que vous faites assez souvent, hein, avec beaucoup de pianistes ou de violonistes français, mais d'autres, et avec les grands concertos? Parce que j'ai l'impression que vous êtes moins passionné par les grands concertos. Je peux me tromper.
Ah, hein. Non, j'aime beaucoup ça. J'en ai beaucoup donné. Je vais bientôt enregistrer d'ailleurs le concerto de Dvorak avec l'orchestre de la radio de Berlin, et c'est quelque chose qui, bien sûr, qui me tient particulièrement à cœur. Quand on est violoncelliste, on est très marqué par ce répertoire et on aime le donner. Mais je n'ai jamais voulu m'enfermer dans un répertoire ou dans un aspect de l'exercice de ce métier. J'ai essayé de ne pas opposer le répertoire seul, les suites de Bach, bien sûr, mais aussi la création jusqu'à aujourd'hui pour mon instrument. J'ai essayé de motiver beaucoup de compositeurs à écrire des œuvres pour le violoncelle seul.
Oui, et ça a bien marché, beaucoup. Pour
la musique de chambre et le répertoire concertant. Je crois pas qu'il y ait de position. Et vous savez, le répertoire violoncelle, il est à la fois riche et assez important.
Oui.
Mais en même temps, il y a des lacunes. Et si on se contente de ne donner que des concertos, il y a beaucoup de choses qu'on ne joue pas. On ne peut pas jouer beaucoup de Beethoven, on ne peut pas jouer de Mozart, on ne peut pas jouer des compositeurs essentiels. Et donc, moi, j'essaye d'être avant tout un musicien complet, et que ça passe par la musique de chambre ou le concerto. Pour moi, finalement, ça n'est pas tellement pas si différent que ça, à partir du moment où j'ai la chance de pouvoir faire un peu de toutes ces activités. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a toujours tenu à cœur, de ne pas fermer aucun exercice qui me permet
ce qui apparaît quand on regarde un peu votre carrière, vos enregistrements, vos concerts. On s'aperçoit qu'il y a un grand éclectisme, et puis finalement rien ne vous arrête, c'est-à-dire vous faites ce que vous avez envie et c'est bien équilibré, et ça je trouve que c'est
j'essaye ça effectivement, je me méfie des étiquettes, elles vous enferment facilement, et j'ai toujours essayé de m'en affranchir, c'est vrai.
Voilà. Alors, pour conclure, vous, les autres concerts après Montpellier, je suppose qu'il y en a, mais tout l'été, vous n'arrêtez pas, je suppose.
Effectivement, là, je pars juste après pour un récital de suite de Jean-Sébastien Bach en Italie, à Bologne, très exactement.
D'accord.
Ensuite, j'ai un récital dans le Luberon. Ensuite, je vais donner les sonates de Beethoven en Macédoine. Je vais dans un festival en Angleterre.
Ah, d'accord.
Ça s'enchaîne un petit peu comme ça.
Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt à Montpellier. Voilà.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Voilà, je pense que j'ai tenu le temps à peu près. 15-48, moi je suis, c'est bien. Ça vous va, ça me va?
C'est ce qui vous fait, mais bien sûr. Parfait. Si ça vous va, ça me va.
Alors c'est parfait. Je viendrai vous dire un petit bonjour peut-être après le
volontiers, concert. Ça me fera plaisir de vous rencontrer en
voilà.
Vrai.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon courage.
Bonne journée.
J'en dis pas plus, hein. Voilà.
Merci beaucoup. C'est sympa.
Merci, au revoir. Au revoir, monsieur.
Voilà, c'était donc Marc Copé qui a interprété cette épiphanie magnifique concerto pour violoncelle de André Caplet. C'était donc hier soir, jeudi 21 juillet, au Corum, à l'Opéra Berlioz. Alors aujourd'hui, 22 juillet, à 20h, le grand concert du soir, c'est donc le National Youth Orchestra, c'est un orchestre de jeunes américains, qui est dirigé par Valérie Gergiev. Et ici, tout se passe bien, nous aurons... au micro, Monsieur Valéry Gergiev. Nous écouterons ça lundi, puisque là, après, on va se retrouver un peu coincé par le week-end. Pour le moment, j'ai pas de confirmation. Enfin, j'ai demandé. J'attends. Voilà. Donc, Panas, pour ce concert de 20h, donc de vendredi 22-20h, vous aurez le prélude à l'après-midi d'un fond de Bussy, le concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninov avec Denis Matsuyev, immense pianiste, et la symphonie numéro 4 de Prokofiev avec des extraits de Roméo et Juliette, qui est l'un des tubes, j'ai envie de dire, de Monsieur Valéry Gergiev. Alors, si vous voulez voir, si vous êtes intéressé par le jazz, vous avez au moins deux choses qui rentrent un peu dans le festival. D'abord, vous avez celui de Junas. Bon, il a un peu récupéré, mais c'est pas grave. Donc, c'est à 20h. Et si vous voulez aller au domaine d'eau à 22h, vous avez Michel Benitas Etix. Alors ensuite, si vous avez envie d'écouter, alors tout ça c'est ça doit être un peu gratuit, peut-être pas le festival de pas le jeu Junas, évidemment. Aussi, vous aurez Philippe Cassard qui donnera un concert en région à Elne, et là aussi c'est payant. D'habitude, c'est que le concert de 20h à Montpellier. Alors, si vous voulez voir des choses gratuites à Montpellier, vous avez à 12h30 eh bien un trio piano, cor, trompette, où vous entendrez pas mal de musique française. À 15h, les rencontres autour rencontres Berlioz Salenstein autour de Frédéric Basile. Et 18h, le trio Georges Sand qui jouera du Wagner, du Chabrier, du Schumann, du Fauré et du Saint-Saëns. Si vous êtes aux alentours de Montpellier, La Vérune, Saint-Brest, Montferrier, vous avez des choses à voir. Et si vous êtes dans la région, vous pouvez aller à la Grand-Combe ou à Aigues-Mortes. Voilà. Donc ceci eh bien, terminera notre émission pour la journée, pour la semaine. Et nous nous retrouverons lundi avec, je le souhaite, M. Valéry Gergiev à ce micro. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, passez un bon week-end. Et alors, il y aura des concerts samedi. Il y en aura dimanche aussi. Il y en aura lundi et mardi. Et après, terminé. Voilà, donc je remercie la technique toujours aussi efficace et je vous dis à lundi.